Le journal, David Sanchez.
Bonsoir. Des médecins qui surfacturent leurs prestations se retrouvent dans le collimateur des assureurs maladie. Dans le canton de Neuchâtel, 2 à 3 professionnels doivent passer à la caisse chaque année. Le traditionnel chantier du Corso Fleuri bat son plein à Neuchâtel. 14 chars sont en ce moment en train d'être décorés pour le cortège de la fête des vendanges prévue ce dimanche. Et chaque minute compte pour être prêt dans les délais. À Berne, le Conseil des États examine une loi majeure sur l'approvisionnement énergétique. Une question centrale est débattue. La production électrique doit-elle primer sur la protection de la nature ? Du côté de la météo, on nous annonce une nuit à peine voilée. À l'image de ces derniers jours, l'aube s'annonce plutôt fraîche. L'amende peut s'élever à plusieurs centaines de milliers de francs pour les médecins qui prescrivent trop de médicaments et leurs patients être privés de remboursement par la LAMAL. Santé Suisse, l'association fêtière des assurances maladie, mène chaque année l'enquête auprès de 28 000 médecins dans le pays. Moins d'1% des professionnels sont finalement épinglés. Dans le canton de Neuchâtel, cela correspond à 2 ou 3 personnes par année. Vos précisions, Stéphanie Wenker.
Ouais, le système est simple, David. Des comparaisons sont faites entre les médecins de même spécialité. Si le tarif par patient dépasse de 20 à 30% la moyenne suisse, alors le docteur en question est averti par courrier. Celui-ci... rembourser sa surfacturation, il risque même de perdre temporairement sa licence. Ce système permet d'éviter les arnaques, selon Christoph Kempf, porte-parole de Santé Suisse, l'association fêtière des assureurs maladie.
Vérifier que les prestations qu'on prend en charge avec l'assurance maladie de base sont bel et bien économiques. Évidemment que ça a un effet préventif avant tout. On montre qu'on est là, qu'il y a des contrôles qui sont réalisés et que si on serait tenté de le facturer un peu trop, on risque de devoir rembourser ce qui a été perçu en trop. Et évidemment, ça, c'est dans l'intérêt des assurés. On a des médecins qui font l'objet d'évaluations d'économicité et qui sont tenus de nous rembourser plusieurs centaines de milliers de francs.
Santé Suisse explique que ce système a permis d'obtenir le remboursement d'1,5 million de francs l'année passée. L'association fêtière des assureurs maladie s'appuie dans le canton de Neuchâtel sur la commission paritaire de la Société neuchâteloise de médecine. Chaque année, 20 à 30 dossiers sont épinglés avant d'être clarifiés, car la moyenne de prescription plus élevée peut être simplement liée au type de patient. Les explications du docteur Laurent Punière, président de la commission de la facturation à la Société neuchâteloise de médecine.
Nous, notre rôle, c'est d'apporter un éclairage médical utile à la population et de préserver les médecins de bonne qualité qui font un travail utile à la population. On n'est pas là pour traiter des chiffres, on est là pour traiter de la médecine, du service rendu à la population, économique bien sûr, mais c'est tout l'intérêt pour nous de détecter ceux qui font bien leur travail, qui sont juste en norme statistiquement, mais qui peuvent justifier d'une pratique médicale utile et particulière.
Il y a très peu de médecins finalement qui se retrouvent à devoir payer. Est-ce que ça veut dire que ceux-là, ce sont les médecins ?
Ou de naturopathes qui sont classés chez les médecins internistes à tort et puis leur pratique est fatalement coûteuse parfois et hors norme.
Avec 2 à 3 médecins qui doivent finalement rembourser des montants aux assurances maladie chaque année, le canton de Neuchâtel fait partie des meilleurs élèves de Suisse.
Merci Stéphanie pour ce dossier. Ça transpire au port du Nid du Croc à Neuchâtel. L'équipe du Corso Fleuri est à pied d'œuvre pour décorer les 14 chars qui défileront dimanche dans le cadre de la fête des vendanges. Ils seront cette année inspirés par les romans de Jules Verne. Les fleurs sont arrivées ce matin des Pays-Bas. 500 enfants de la région participent au piquetage des fleurs entre aujourd'hui et demain. Pour être prêt à temps, une fleur doit être piquetée toutes les 6 secondes. Les explications du responsable de la construction du Corso Fleuri, Yvan Fluman.
On a terminé les constructions hier, on a eu les portes ouvertes hier soir qui ont eu un franc succès et ça a été la possibilité à mon équipe de pouvoir un petit peu faire la fête et se reposer avant qu'on attaque maintenant aujourd'hui la floraison avec au total environ 600 personnes sur 2 jours, 1,5 million de fleurs, 350 kilos de clous. Et ça, c'est la partie la plus stressante. On sait qu'on a 2 jours pour tout poser, donc c'est vraiment le moment le plus stressant de toute la construction.
Et vous êtes dans les délais pour le moment, ça va ?
Jamais je vous dirais que je suis dans les délais. Jamais je dirais que je suis dans les délais, mais bon, je pense qu'un chef ne doit pas montrer qu'il a peur, parce que sinon ça donne peur à tout le monde. Donc voilà, on fait comme si on était bien, mais non, la boule au ventre depuis plusieurs semaines.
Des propos recueillis par Aude Raymondi. Les chars seront à découvrir dimanche dès 13h30 sur l'avenue du 1er mars à Neuchâtel. Le cortège démarrera sur le coup dès 15h. Val de Travers embrasse à son tour la sobriété énergétique. Le Vallon appliquera dès lundi plusieurs mesures d'économie d'énergie. Au programme, l'extinction de l'éclairage public de minuit à 6h du matin, une baisse du chauffage des bâtiments publics jusqu'à 20 degrés et les éclairages de Noël se limiteront à l'installation d'un sapin par village, sapin qui sera éteint toutes les nuits en même temps que l'éclairage public. La Grange a terminé sa mue. Dès ce soir, elle s'appelle la Grange de Luxe. Le café-théâtre du Locle a déménagé à quelques mètres de son lieu de naissance, dans l'ancien cinéma Luxe. Zo explique ce qui change entre la Grange et la Grange de Luxe.
La sécurité déjà, parce qu'on n'a pas déménagé juste par envie, on a déménagé vraiment parce que la grange n'était plus utilisable, ni par rapport aux artistes, ni par rapport au public, à la sécurité, etc. Donc ça, ça a été le premier déclencheur et c'est ce qui change fondamentalement. C'est une nouvelle salle qui est faite pour être utilisée comme un café-théâtre. Après, ce qui change, ben, c'est tout, parce qu'on n'a pas essayé de reproduire, de refaire une grange. On va essayer d'y garder l'âme, évidemment, parce que ça reste un café-théâtre, ça reste le Locle. Il faut que les gens s'y sentent tout aussi bien. Après, le reste change. Il y a un vrai accueil possible pour les artistes et pour le public. Un bar qui est plus accueillant, une scène qui est une vraie scène. Un peu plus de place aussi. Au niveau de la jauge, on ne va pas tout rechanger. On a grandi un tout petit peu. On passe de 90 à 120 places. L'idée, ce n'est pas de faire une énorme salle non plus, mais vraiment un café-théâtre qui vit comme tel et qui est accueillant, avec l'âme de la grange qui reste un peu dans les murs.
Ce soir et demain soir, pour son premier spectacle en public, la Grange de Luxe accueille le bar à Jamais. Pour l'occasion, Yves Jamais a invité sur scène ses amis artistes Thierry Romanens, Simon Gerber, le Bel Hubert ou encore Sophie Noir-Cumer. Pour ne citer que ceux-ci, ces deux premières soirées se déroulent à guichet fermé. Le Conseil des États a consacré sa journée au premier examen d'une loi majeure, loi qui fixe les objectifs et les moyens de produire suffisamment d'électricité indigène renouvelable pour couvrir les besoins de la population et de l'économie suisse, et cela sans recours aux énergies fossiles et sans nucléaire. Pour y parvenir, il faut investir massivement dans le photovoltaïque, l'éolien, la géothermie, l'hydraulique et la biomasse. Le plan du Conseil des États à l'horizon 2050 prévoit 80 TWh par an. L'an passé, nous avons consommé 64 TWh. Il y a consensus sur l'objectif, mais il y a divergence sur le concept pour y parvenir. La production d'électricité doit-elle primer sur la protection de la nature ? La réponse de la verte genevoise Lisa Mazzone.
C'est une loi qui est centrale. Elle permet de garantir l'approvisionnement en électricité. En fait, elle donne les moyens de développer. Par exemple, le solaire, on a un prix minimal de rachat. C'est déterminant pour que les installations soient enfin réalisées. Centrale, elle prévoit aussi des mesures pour les économies d'énergie. Mais malheureusement, en commission, il y a un projet qui est totalement déséquilibré, qui est sorti, qui est contraire à la Constitution, qui vraiment met à plat toutes nos règles de protection de la nature, de la biodiversité, et qui menace le projet.
Parce que ce principe de faire primer les infrastructures électriques sur la protection de l'environnement apparaît comme contraire à la Constitution. Une majorité de 28 sénateurs contre 14 a décidé de ne pas surseoir aux règles environnementales, et ce, malgré le plaidoyer du Valaisan du Centre, Beat Rieder.
Pour la production, on doit maintenant prépondérer les intérêts. Et l'intérêt de la production d'énergie est momentanément nettement plus important que les autres intérêts. Le Conseil aux États voit maintenant qu'on doit absolument avancer avec la production. Quand on ne fait pas ça, ça pourrait être un dommage pour l'économie suisse et pour les Suisses, parce que maintenant on a des prix qui augmentent, on a beaucoup de problèmes sur les marchés, on a beaucoup de problèmes dans l'économie. Alors on doit montrer qu'on est prêt de faire des projets très grands et très vite.
La loi sur l'approvisionnement en électricité est encore loin d'être aboutie. Elle passera au Conseil national lors d'une prochaine session. Puis les deux chambres devront trouver les compromis susceptibles à la fois de décupler la production d'électricité sans fouler aux pieds la protection de la nature. la moitié de la population suisse serait prête à économiser de l'énergie en cas de nécessité. Selon l'Institut Link, plus d'un tiers s'inquiète de la sécurité de l'approvisionnement et seuls 5% des Suisses interrogés se sont montrés peu disposés à économiser de l'énergie si les autorités devaient le leur demander. Ce sondage montre également que de nombreuses personnes économisent déjà de l'électricité en éteignant les appareils et en chauffant moins, et prendre une douche plutôt qu'un bain est la mesure la plus évoquée. Pfizer soumet à Swissmedic un nouveau vaccin contre le Covid. Ce sérum contient l'ARN messager qui entrait dans la composition du vaccin original contre la maladie, ainsi que de l'ARN M codant pour la protéine spike des variants Omicron BA4 et BA5. La HEP Belgium se dote d'un test lab sur son site de Delémont, un espace de découverte et d'expérimentation de divers outils numériques. Des robots, des imprimantes, lasers ou 3D seront disponibles dès le 3 octobre prochain pour les élèves, les enseignants de la HEP Belgium, mais aussi les enseignants externes. De quoi permettre aux différents acteurs de l'éducation de se familiariser avec les apprentissages numériques et innovants. Concrètement, cela peut aller de la fabrication d'un compas grâce à une imprimante 3D ou encore le découpage d'une carte de la Suisse grâce à une imprimante vinyle. C'est d'ailleurs le travail qui était en cours ce matin lors de notre visite au Test Lab.
À la différence d'une imprimante qu'on a l'habitude à jet d'encre où elle passe par ligne, une découpeuse laser, elle va faire le tour vraiment des... Les différents cantons, elle ne va pas passer par les imprimantes traditionnelles.
Alors Alain Berbera, je suis coordinateur des test labs et des services techniques. Le but, c'est de développer les compétences numériques des élèves. Et pour ça, il y a différentes machines et différentes approches qui sont proposées. Il y a des machines qui sont très accessibles dès le plus jeune âge. Et ça nous semblait important d'avoir une proposition pour les plus jeunes. Et au fur et à mesure, il y a des machines plus complexes, voire très complexes, pour des âges plus élevés. Voilà, il y a différentes propositions également qui sont en lien avec le plan d'études roman, où les enseignants ils peuvent faire des liens avec ce plan d'études.
Voilà, c'est intéressant de commencer par les robots pédagogiques. C'est une base qu'on va retrouver sur chacun des sites. C'est vraiment intéressant pour apprendre à programmer, pour découvrir le numérique.
Ouais, alors notre but, c'est justement que ce soit accessible à tout le monde et pas se retrouver qu'avec une équipe d'enseignants geeks dans ce test lab, mais vraiment que n'importe quel enseignant ou enseignante puisse venir dans ce test lab et puis que ce soit expliqué, qu'il y ait un coaching, une initiation, des activités. On a un programme d'activités qui va être proposé pour intéresser les différentes personnes, mais d'une manière assez simple, et puis, mais qui a aussi la possibilité d'aller vers quelque chose de plus poussé s'il y a un intérêt.
Plus d'informations sur notre site internet. D'autres test labs seront développés à la HEP de La Chaux-de-Fonds et celle de Bienne les deux prochaines années. Le fils de la victime du féminicide de Courfèvre a été désavoué par le tribunal fédéral. Dans un arrêt rendu public aujourd'hui, le TF a déclaré le recours de ce proche irrecevable. Il a ainsi décidé de ne pas se prononcer sur le fond de la décision de la justice jurassienne. Cette dernière avait décidé l'an dernier de classer la plainte de la famille à l'encontre d'une procureure et d'un policier pour homicide par négligence et omission de prêter secours. La procédure ne va pas pour autant s'arrêter là, selon l'avocat de la famille, Frédéric Hénard.
Si une faute a été commise par quelqu'un, précisément parce que le recours est irrecevable, on peut chercher la responsabilité de ce quelqu'un directement dans le cadre d'une action en responsabilité contre l'État. Je ne vous cache pas qu'on avait déjà anticipé cette démarche, puisque nous sommes en négociation avec l'État afin qu'il reconnaisse sa responsabilité. Alors ça s'appelle une action administrative, parce que la personne qui a fait la faute, c'est pas un être humain, tout un chacun, mais c'est un organe de l'État, le ministère public, selon la famille de la victime. La législation prévoit une voie de droit particulière, qui est l'action en responsabilité. Mais elle a déjà été demandée et les autorités du gouvernement jurassien sont au courant de cette démarche.
Frédéric Hénard souligne que la famille ne cherche aucun avantage financier. Elle souhaite avant tout que la responsabilité de ce drame soit établie. Enfin, en sport, Roger Federer disputera bien le dernier match de sa carrière demain à Londres dans le cadre de la Laver Cup. Il fera, comme prévu, équipe avec son grand rival et ami Rafael Nadal. Le Ballois et le Majorquin, qui cumulent 42 titres majeurs en simple, affronteront les Américains Jack Sock et Frances Tiafoe dans le dernier match programmé. Cette partie devrait débuter vers 22h heure suisse.